Exposé présenté dans le cadre de la quatrième rencontre estivale du groupe de professeurs de philosophie chrétien de la conférence Sainte Catherine d'Alexandrie sur le thème de la nature. Gabriel Germont, professeur à Aire-sur-l'Adour. L'équivocité de l'être au cœur de la nature, lecture du Timée de Platon.
Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait abordé cette question de la vertu et j'avais proposé une lecture du Protagoras sur qui part de la question « La vertu s'enseigne-t-elle ?» Et on avait vu Platon reconnaissait une forme d'ignorance, d'agnoïa, le fait de ne pas savoir, et quelque chose de tout autre, qui est l'amatia, la stupidité, c'est le fait de ne pas apprendre, de la volonté de ne pas apprendre. Et que là, il y avait quelque chose qui était comme une sorte d'idiotie, mais qui pouvait être raffiné, hein, qui n'était pas le manque d'intelligence, au contraire. Et Platon reconnaissait qu'on pouvait enseigner la vertu, parce qu'il y avait une sorte d'épistémé, de connaissance liée à la vertu. C'était l'art de la mesure, la techné métrétiquée, qui, en gros, je rappelle, c'est le fait d'avoir une perspective élargie. En général, je ne sais pas, on agit sur le moment, on se dit, tiens, j'ai envie de beaucoup de pruneaux, je vois que j'ai mon estomac qui digère plutôt mal. Je prends la perspective future, je considère les effets que ça pourrait avoir et je vais plutôt m'abstenir. Ça veut dire que j'ai une perspective élargie et finalement, on prend en compte les conséquences. Et donc, toute cette question de l'enseignement de la vertu, tous les dialogues de Platon, finalement, le creusent et essaient de raffiner un peu cette idée de perspective, cette idée que l'homme agit et doit prendre, finalement, en connaissance de cause, une perspective plus grande. Et le Timée, qui est un dialogue sur la nature, s'inscrit dans cette question de l'épistémé et de l'ordre juste. Alors, le contexte du Timée, c'est un jour après la République. On voit que la République, c'est la réflexion de la cité comme l'homme écrit en gros caractères. La nature, le timée, ça va être le contraire. Ça va être finalement, pour connaître l'homme, il va falloir aussi connaître cette nature dont il fait partie, et connaître ses catégories fondamentales. Qu'est-ce qui la caractérise et qu'est-ce qui caractérise au fond l'existence humaine? Finalement, dans le Timée, on va adopter une perspective beaucoup plus large que la cité, mais qui est celle du cosmos, et qui nous permettra ensuite de comprendre toute la question du politique aussi, donc qui n'est pas détachée de la question de la morale et de la politique. Je me suis dit que ce serait intéressant d'aborder ce dialogue du Timée, qui est connu pour être très complexe, très obscurs. La lettre du texte peut décontenancer, on peut y voir peut-être des confusions, on peut y voir des conceptions scientifiques de l'époque qui sont très riches au niveau de la médecine, de la biologie, mais qui sont peut-être dépassées à notre sens. J'aimerais essayer de toucher à l'esprit au-delà de la lettre. Et donc, de partir déjà du principe, pourquoi lire le Timée aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur la nature, au fond? Parce qu'on y trouve, justement, des conceptions. Finalement, pourquoi se référer à un texte d'il y a 2500 ans, quand la science moderne a totalement révolutionné nos manières de comprendre la nature? Donc, je partirai simplement de cette question en introduction pour essayer de fonder l'intérêt de la lecture du Timée, en rappelant que dans le Phédon, Platon nous parle finalement un peu de la biographie de Socrate et de la déception qu'a eu Socrate devant la physique d'Anaxagore. Souvenez-vous, Anaxagore, c'est celui qui disait « il y a une cause unique La nature, c'est l'intellect, le principe du nous, qui est un, qui est intelligible, qui est invisible. Et pourquoi Socrate va être déçu, c'est que cette cause l'émerveille. Hein. Cette cause l'émerveille, l'intéresse beaucoup. Et au final, quand il va lire Anaxagore, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver des analyses entre les rapports mécaniques entre les choses. Hein. Anaxagore parle des actions des airs, des éthers, des eaux, etc. Mais finalement, il abandonne totalement cette cause première, intelligible, qui est l'intellect, hein, au profit de ce qui existe dans le monde et des rapports entre les choses. Et donc, toute la philosophie de Socrate, ça va être justement de voir qu'il y a quelque chose de réducteur dans cette vision mécaniste, analytique des choses. Et donc, d'où la théorie qu'on connaît tous de la forme, des idées des choses, des idées intelligibles des choses, hein, où la diversité de ce qui existe se ramène toujours à des idées uniques, immuables, éternelles. Donc, lorsque Platon entend parler de la nature, d'une certaine manière, d'une manière qui n'est pas du tout moderne, il le fait en conscience. Et ça, il faut bien s'en souvenir, parce qu'il le fait en conscience, et il trouve égarant l'oubli de cette cause première au profit, hein, des conditions matérielles de la venue à l'être des événements et des choses. Donc, on pourrait commencer par voir avec Platon, hein, que la conscience de ce qu'est la nature ne réside pas dans une connaissance intégrale des faits, de la longue suite de ce qui se produit, que finalement l'action de l'air produit telle chose, puis telle chose, et que le monde ne se réduit pas à un ensemble de faits. Wittgenstein, dans le même sens, dira que croire en un Dieu signifie voir que les faits du monde ne résolvent pas tout. Si vous voulez, vous pouvez avoir écrit dans un livre tous les rapports des choses, tous les événements, les causes, les effets, etc. Il y aura toujours quelque chose qui résistera à la connaissance du monde, c'est finalement pourquoi l'existence du monde. Même si on connaissait tout ce qui se passe dans le monde, il y aurait quelque chose qui résisterait dans notre quête de vérité. Dans notre quête de vérité, elle ne serait pas assouvie. Donc le Timée va justement partir, hein, de cet étonnement devant le monde et de sa cause. Et ce qui va être intéressant ici de voir, c'est que Platon ne va pas chercher à former un système totalement dogmatique, mais plutôt chercher à illuminer des structures du cosmos, à décrire l'expérience de l'existence dans la nature. Et de là, il va découvrir finalement une structure paradoxale de la réalité et de la conscience, d'où en fait une ambiguïté du langage dans le vocabulaire, c'est ce qu'on va voir, qui peut mener à une compréhension très, très compliquée. Voilà, donc l'enjeu, hein, ce serait de montrer qu'un Platon moins dogmatique qu'il n'y paraît, qui cherche à symboliser certains mystères sans chercher à les dépasser, comme ferait un Hegel, par exemple, par des pirouettes linguistiques, par la création, finalement, d'un langage artificiel, mais il va chercher plutôt à illuminer des tensions qui sont paradoxales dans la réalité. Donc, dans un premier temps, remettrai le Timée dans une histoire de la symbolisation de la nature, de la découverte d'un au-delà des choses, d'une présence qui va informer, d'une présence intelligente qui va informer les choses, et les choses donc par Hésiode et Parménide. Ensuite, dans un deuxième temps, j'aborderai la vision cosmologique du Timée et les ambiguïtés du langage qu'il peut y avoir. Et dans un dernier temps, j'aborderai cette équivocité de l'être dont parle Platon. Et J'essaierai de montrer en quoi Platon a compris le mystère de l'au-delà par rapport aux choses et qu'il a cherché à articuler en fait les différentes structures de la réalité et les différents niveaux de l'être en fait. Donc dans un premier temps, je partirai de la découverte de l'être au-delà des êtres, hein, avec d'abord Hésiode et Parménide. Donc chez Hésiode, dans la Théogonie, hein, Hésiode s'intéresse à la formation finalement de l'univers, et il distingue entre... Donc il y a deux symboles dominants hein, chez Hésiode, dans la Théogonie. Il y a les choses, ta et onta, donc au pluriel, hein, il y a les choses, il y a les dieux, théoi, les dieux qui comprend les dieux de l'Olympe, hein, qu'on connaît, les muses, qui sont la mémoire dans l'existence, hein, c'est les muses qui révèlent à Hésiode finalement la formation des choses de l'univers. Les dieux, mais c'est aussi les dieux, les pères des Olympiens, donc Ouranos, Cronos, Cyclope et les Titans, et une triade originelle qui est en deçà des autres dieux, qui est Chaos, Gaïa et Eros. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les relations entre les séries des dieux est symbolisée par Hésiode d'une manière génétique, au sens biologique. Les dieux engendrent d'autres dieux, comme finalement les espèces engendreraient d'autres espèces. Et donc, ces dieux se ramènent au niveau le plus fondamental à cette triade originelle, Chaos, Gaïa et Eros. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que cette triade originelle est sans commencement. Hésiode s'arrête à cette triade de dieux. Et donc, ce commencement demeure d'abord mystérieux. Il ne va pas chercher à le symboliser, mais finalement, il commence par finalement ces trois dieux originels. Donc, si aucun dieu n'est, et aucun des dieux, hein, Chaos, Gaïa et Eros, n'est la source créatrice des deux autres. Ils sont tous les trois différents, et on peut en déduire qu'ils sont auto-engendrés. Donc, d'un côté, il y a les dieux, qui sont finalement ce qui forme l'univers, c'est finalement l'intelligence créatrice, formatrice, et de l'autre côté, les choses, hein, qui ne sont pas simplement les objets du monde extérieur, puisque les choses, en fait, comprennent toute l'échelle de l'évolution de la réalité, de la terre jusqu'aux cieux, mais aussi l'ordre juste des dieux et l'ordre juste des hommes. Et donc la présence divine, qu'Hésiode remarque, est un mouvement formateur dans toutes les choses qui existent. Et donc Hésiode cherche à symboliser, on le voit là, l'expérience d'un au-delà des choses. C'est ça qui est intéressant ici, qu'il y a d'un côté l'intelligence qui ordonne les choses, finalement ce qui fait que le cosmos est cosmos, hein, que c'est pas quelque chose d'informe, et les choses. Mais chez Hésiode, l'ambiguïté demeure, car en fait, lorsqu'il va parler de la terre, des rivières, des mers, du ciel et des étoiles, souvent, il va... ces choses, en tout cas, vont être mentionnées comme ce qui va faire naître les dieux. Mais en remontant l'arbre généalogique, on retombe toujours sur cette triade originelle des dieux. Et donc, en fait, les choses ont une certaine aura divine et les dieux ont une aura de choses. Les dieux sont comme presque des choses, objets, presque des objets de conscience, et les choses ont quelque chose de divin. Donc, il y a une ambiguïté dans la symbolisation entre les choses qui existent et un au-delà des choses. Et... dans un deuxième temps, Parménide va justement critiquer cette conception d'Hésiode en ne partant plus des choses, mais en distinguant les choses de l'être, en fait, les êtres de l'être. Il va singulariser les êtres, donc le toéon, l'être et le devenir. Et chez Parménide, il y a vraiment cette découverte qui est fondamentale, que Heidegger reprendra, que l'être, ce n'est pas les étants, ce n'est pas l'ensemble des étants, qu'il y a dans l'être quelque chose de plus. C'est donc si, finalement, l'au-delà des choses était adéquatement exprimé, cet au-delà des choses ne devrait pas être rangé parmi les choses. Hein, l'être en lui-même n'est pas les êtres. Et donc, chez Parménide, l'être n'est rien des choses. Alors que chez Hésiode, hein, l'être qui est prédiqué à tous les êtres, choses, l'être, c'était finalement tous les êtres. Voilà. Donc il y a cette découverte majeure que finalement, il y a l'ordre du devenir et il y a l'ordre de l'être, finalement, qui est toujours le même. Hein, voilà, on voit ici, il y a cette chaise, il y a tous les êtres, il y a le ciel, il y a la terre, et toutes ces choses sont de l'être, mais elles ne sont pas l'être, qui est toujours le même, finalement, qui est toujours immuable. Donc cet être n'est jamais un été, disait Parménide, il n'est jamais un sera, mais il est toujours dans son maintenant, hein, il est toujours un tout, un, il est toujours continu. Donc, chez Parménide, il y a vraiment cette distinction forte et sûrement trop radicale entre l'au-delà divin, qui est un éternel maintenant, hein, comme le nunc augustinien, et l'ensemble des choses qui sont du devenir. Et donc, en fait, cette excitation liée à la découverte de Parménide, entre le fait que l'être ne se réduit pas aux êtres, apporte une nouvelle ambiguïté, puisque, on le voit très vite, le symbole de l'être n'est rendu approprié qu'à cet au-delà des choses du devenir. Donc, l'ensemble des choses, finalement, a alors un statut ontologique, problématique, finalement. Parménide dit, c'est une même chose, le penser et ce dont est la pensée, car en dehors de l'être, en quoi il était il est énoncé, tu ne trouveras pas le penser. Ici, c'est intéressant, et parce que Parménide remarque une chose fondamentale que Vauglin associera à la structure paradoxale de la conscience. En effet, dans la conscience, si vous voulez, les modernes ont accentué ce côté intentionnel de la conscience, qui est la conscience d'un sujet qui est dirigé vers un objet. Donc, on peut voir qu'il y a le sujet et la réalité elle-même est un objet pour cette conscience. Mais la conscience, c'est pas seulement ça. Il y a un autre mode de la conscience qui est ce que Vauglin appelle la luminosité, c'est-à-dire que la conscience est elle-même une partie, un événement de la réalité englobante, hein, de la réalité dont elle participe, et que finalement, la conscience participe d'une réalité englobante qui peut amener à des révélations, à des épiphanies, le fait de participer à quelque chose de transcendant à la conscience, par exemple de participer au monde, de participer même à une cité. Donc il y a une structure paradoxale, et chez Parménide, on le voit, c'est une même chose, le penser et ce dont est la pensée, c'est-à-dire que finalement, le penseur devient le porte-parole de cette réalité, hein, englobante qui se révèle à Parménide. Finalement, c'est comme la philosophie, si vous voulez, c'est un événement dans la réalité qui ne dépend pas seulement, si vous voulez, des simples sujets. Je sais pas, Heidegger parlerait sûrement d'une histoire de l'être, au sens où c'est pas simplement des sujets qui pensent, mais il y a aussi cette réalité dans laquelle la conscience s'inscrit et n'est qu'une partie. Et donc chez Parménide, il y a une assurance de soi vraiment radicale qui, Parménide se présente comme l'homme qui sait, hein, et donc Parménide oublie qu'il est aussi le porte-parole d'une conscience qui est située corporellement, qui est celle d'un homme qui se nomme Parménide. Hein. Et donc, Platon va s'inscrire ici dans la symbolisation de l'expérience d'une certaine complexité de l'être. Il va voir évidemment que Parménide a fait une découverte entre l'être et les êtres, qui ne s'identifient pas, mais Parménide différencie trop radicalement ces deux aspects de la réalité. Platon va chercher à rééquilibrer finalement ces symboles pour donner une symbolisation adéquate de l'expérience. Et par rapport à Parménide, qui dit que c'est l'homme qui sait, hein, le philosophe, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas, et plus important encore, qui sait pourquoi il ne sait pas, parce qu'il y a quelque chose comme une ignorance constitutive, hein, le philosophe est toujours entre l'ignorance et le savoir, il est toujours entre la mortalité et l'immortalité, et on va voir qu'en fait, ce n'est pas seulement le philosophe, mais c'est toute la nature du cosmos qui est comme ça, qui est dans une tension entre devenir et être, entre temporalité et éternité, entre mortalité et immortalité. Et donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc le Timée est un discours sur la nature, comme je l'ai dit, un discours qui, et Platon va beaucoup insister, qui est un discours conjectural, qui est vraisemblable. Hein, il ne s'agit pas de porter un discours absolument rigoureux et véritable, mais de chercher à révéler finalement des choses par le biais finalement du mythe. Hein, on va chercher à illuminer l'expérience de la réalité, mais un discours qui procéderait par la causalité aurait du mal finalement à révéler toute la complexité de la réalité, par exemple, sur le commencement du monde. Est-ce qu'on peut vraiment, adéquatement, par une cause nécessaire, fonder le commencement du monde? Donc le domaine du mythe nous installe déjà dans l'idée que Platon ne va pas chercher à faire un système du monde, mais à décrire une certaine expérience de la réalité qui résiste au discours absolument rigoureux et véritable. Donc Platon va changer déjà l'ordre des symboles. Chez Parménide, on parlait de l'être. Platon va parler du tout, le topan, le tout, l'univers, c'est-à-dire la tension d'expérience à l'égard de la réalité. Parce qu'en fait, peu importe le nom qu'on choisit, ce qui est recherché, c'est cette réalité. Donc je cite Platon, « Soit donc le ciel, Uranos tout entier, ou le monde, cosmos, ou de toute autre appellation qui lui soit plus acceptable. » Donc on voit que le cosmos, c'est pas d'abord un concept, mais c'est un symbole qui cherche à atteindre, à décrire une certaine tension, qui est une visée en fait. C'est la symbolisation de la tension de l'expérience de l'existence. Donc, toute une série de problèmes dans le Timée, hein, qui seront par exemple sur l'unité du cosmos. Par exemple, cette question se pose dans la science aujourd'hui. On se demande par exemple si avant le Big Bang, il n'y avait pas un autre univers. Et je crois que d'ailleurs c'est assez accepté. Donc une autre question serait le commencement du monde, ou est-ce que le monde est éternel? Quels sont les différents modes d'être au sein de l'être? Est-ce que l'univers est une chose, ou est-ce que c'est l'au-delà des choses? Est-ce que l'être se réduit à l'univers? On pourrait se demander. Et donc finalement, Platon va chercher à rendre plus visible la structure du cosmos par un autre moyen que le discours de vérité, hein, procédant par les causes nécessaires. Donc qu'est-ce que ce tout? Qu'est-ce que l'univers? Et là, vous allez voir, vous allez être surpris, puisque je vous dis que Platon cherche à faire un discours vraisemblable. Platon va dire, je cite Platon, « Ainsi donc, suivant un raisonnement vraisemblable, il faut dire que ce monde vivant, donc c'est un monde vivant, doué en vérité d'âme et d'intelligence, c'est par la providence de Dieu qu'il est devenu. » Donc là, on a une sorte d'ironie de Platon. Il dit en même temps qu'il y a un raisonnement qui est vraisemblable, et il dit que ce monde est un vivant en vérité, doué d'âme et d'intelligence, comme si, finalement, enfin, cette question, est, on verra plus tard. Mais en tout cas, il y a une ambiguïté même dans le discours même sur la nature. Donc le Timée, pour arriver à ces définitions, introduit la distinction entre l'être, entre ce qui est toujours, donc sans devenir, qui est toujours le même, qui est atteint par l'intellection, par la pensée, au moyen des raisons. Et il fait la distinction entre ce qui devient toujours, mais qui n'est jamais. Donc ce qui devient et s'en vient, hein, Marc l'a dit tout à l'heure, hein, la cascade, finalement, elle coule, elle semble toujours la même, mais tout change à chaque instant, et cet instant-là, en fait, ne reviendra plus jamais comme il l'était. Hein. Finalement, dans le devenir, on peut avoir une illusion que les choses se répètent, mais il y a une forme d'inexorabilité, finalement, et tout devient, tout s'en va, tout passe, alors que l'être, hein, l'être c'est ce qui est toujours et qui ne passe jamais. Ce qui devient toujours suppose donc une cause antécédente, hein, nécessairement, parce que ce qui devient est un effet d'une cause qui le détermine. Et donc, Platon en vient à se demander si le monde a commencé. Et ce qui est intéressant, hein, c'est qu'il va chercher à induire. Il va partir d'abord du monde visible, et il va chercher à se demander d'abord par rapport à un artiste, ce qui peut paraître très bizarre pour nous. Il va se dire, la beauté d'une œuvre dépend en fait du modèle à partir duquel on va la fabriquer, cette œuvre. Et donc il nous dit que lorsqu'on part d'un modèle qui est toujours identique, il y aura forcément une beauté de l'œuvre, alors que si on part d'un modèle qui est devenu, l'œuvre ne sera pas belle. Par exemple, si je veux fabriquer une maison, je vais partir de l'idée de la maison, je vais partir de l'idée rationnelle de la maison qui n'existe pas, qui est la même, et ce sera une œuvre belle par rapport à si je devais prendre quelque chose qui est devenu, quelque chose qui finalement est passé, qui est quelque chose de moins parfait que cette idée de la maison. Donc, pour Platon, est belle l'œuvre à l'image du modèle qui est, donc qui est éternellement. Et Platon nous dit que l'univers, finalement, a un commencement parce que on remarque l'univers est devenu, déjà, hein, parce qu'on voit que l'univers est visible. Il a un corps et il devient, c'est-à-dire qu'il passe, il s'en vient, il a des causes. Et donc, on le voit, cette question du commencement, Platon utilise la métaphore de l'artisan. Et frère David disait avec Thomas d'Aquin que lorsque la métaphore de l'artisan permet de penser une transcendance, en fait. La transcendance est conservée. si vous voulez, il y a cette idée que finalement l'artisan fabrique le monde et que donc il y a quelque chose qui transcende le monde. Quelque chose qui transcende le monde. Donc on passe d'une vision d'Hésiode qui était une vision génétique, biologique de la succession des dieux et des êtres à un acte démiurgique qui est créateur chez Platon. Et donc, Platon va chercher à... il parle hein, de l'auteur de cet univers, le père de cet univers, et il faut découvrir qui est l'auteur de cet univers. Et dans les lois, il posera même cette question qui est magnifique. Qui est donc ce Dieu hein, qui est donc ce Dieu? Donc, quel est ce cosmos? Il a un commencement, mais est-ce qu'il est créé à l'image d'un modèle intelligible, parfait de l'être, ou est-ce qu'il est créé à partir d'un modèle du devenir? Platon induit en fait de la beauté de l'univers que l'univers, qui est le plus bel ouvrage parmi les choses en fait, est conçu à partir d'un modèle éternel et intelligible. Donc Yvan, on en parlait une fois, mais c'est là où Platon n'est pas un gnostique, hein, c'est que l'univers est beau en soi, et montre la beauté de son auteur. Hein, donc Platon dit que le cosmos est la plus belle des choses devenues, et l'auteur est la plus bienfaisante des causes. Donc, c'est-à-dire que l'auteur est sans envie, il y a une certaine générosité de l'acte créateur, sans envie, c'est-à-dire qu'il va chercher à rendre l'œuvre la plus conforme à son être. Hein, la plus conforme à son être, donc à rendre la chose la plus semblable, le plus possible à lui-même. Donc, on le voit, l'origine principale du monde est une origine liée à l'intelligence divine, à un acte créateur, à un modèle intelligible. Et donc, ici, il faut aller encore plus loin. Comment va être pensée cette création? C'est l'acte d'un démiurge, donc un artisan divin, qui va essayer de rendre tout ce qui est visible, il va essayer d'ordonner tout ce qui est visible. Donc une sorte d'état primordial, chaotique. On retrouve dans la Genèse aussi l'idée d'un tohu-bohu sur lequel on aurait apporté l'ordre, une intelligence qui aurait ordonné les choses. Ici, donc c'est cette idée, l'idée que le démiurge, à partir d'un modèle intelligible, éternel, va apporter l'ordre dans ce qui se remuait sans concert et sans ordre. Et donc l'expérience du cosmos que fait Platon est l'imposition de l'ordre, la taxis, sur un état primordial de désordre, l'ataxia. Donc c'est l'idée que l'artisan œuvre intelligiblement sur des matériaux désordonnés. Donc le cosmos, ce n'est pas un déploiement des choses, hein. Ce n'est pas un être radicalement différencié des choses, mais c'est là ce qui est très intéressant chez Platon, c'est le mélange entre quelque chose qui est toujours et n'a pas de devenir, et d'une autre chose qui devient toujours et qui n'a jamais l'être. Donc le cosmos a une structure ambiguë. Il est en même temps lié finalement à une intelligence qui reste toujours la même, mais le cosmos est en même temps tout entier devenir, et donc semblable à sa cause, mais en même temps différente. Et donc forcément, si le cosmos est un mélange, le sophiste dirait de même et d'autre, si le cosmos est un mélange du même et de l'autre, de l'être et du devenir, forcément le langage va devenir paradoxal, parce que on ne pourra pas parler du cosmos comme simplement une chose. Le cosmos, c'est pas une chose parmi les autres, c'est quelque chose qui est englobant, hein. Platon parlera de périécone, c'est ce qui comprend toutes les choses. Donc on ne peut pas le comprendre simplement comme une chose. Et en même temps, le cosmos peut être appréhendé comme une chose, mais en fait le cosmos n'est ni une chose ni une non-chose, parce qu'en fait il est des deux. Il est des deux. Et c'est ça qui est très compliqué à comprendre, mais c'est qu'il y a une tension entre finalement une tension d'être et de devenir, et d'éternel et de temporel, mais c'est ce qu'on va voir. Et donc, là, le démiurge va faire l'ouvrage le plus beau. Or, qu'est-ce que c'est que le plus beau? C'est un tout avec l'intelligence, le nous, l'intellect. Et le nous ne peut pas être sans psyché, sans la psyché, donc c'est ce qu'on appellera l'âme, l'âme du monde, hein, qui va être très, très exploitée dans le néoplatonisme. Et l'âme du monde ne peut se manifester chez un sujet sans corps. Donc si vous voulez, le cosmos, c'est à la fois un mélange d'être et de devenir, et c'est constitué comme à la fois de l'intelligence, hein. Le cosmos, c'est pas un chaos tout entier, mais il y a de l'intelligence qui est une. Je sais pas si vous voyez toutes les choses dans le monde, malgré la diversité des formes, il y a une même intelligence qui informe les choses, et cette intelligence est inscrite dans une âme, donc qui meut, et qui est inscrite elle-même dans un corps, dans la soma, qui est visible, donc, je sais pas, la psyché du monde, on pourrait le comprendre, mais peut-être que j'ai tort, hein, en tout cas, je le comprends comme ça, mais vous me rectifierez sûrement, comme l'idée que finalement, il y a une co-substantialité aussi de des êtres, c'est-à-dire qu'on n'est pas totalement détaché, mais que même si les étoiles sont éloignées de la plante, il y a comme une âme commune, il y a comme une psyché commune. Donc, il faut surtout pas hypostasier les différents symboles. Platon pense le complexe nous, psyché, soma. Et tout ce complexe symbolise en fait la structure de la réalité cosmique, non seulement le tout, mais aussi ses parties. Donc le cosmos, c'est un mélange d'être et de devenir, donc une tension entre l'éternel et le périssable, mais aussi un mélange de même et d'autre, qui sont les catégories fondamentales de la réalité. Et donc, si vous voulez, on en revient à ces ambiguïtés du langage, que Platon va lui-même décrire. Leur source, en fait, l'ambiguïté du langage tire sa source de l'ambiguïté d'une réalité qui révèle sa vérité dans la conscience. Finalement, le tout est à la fois pensé comme ce qui est expérimenté sensiblement, hein, le cosmos avec ses corps célestes visibles, mais c'est aussi finalement le topan, ce qui n'est pas une chose parmi les choses, ce qui n'est pas assez accessible simplement à la perception sensible, hein, ce caractère d'intelligence, l'intellect invisible. Et donc ce tout n'est ni de l'être ni le non-être, car il est les deux, hein. Et l'ordre entre ces êtres opposés est médiatisé par le finalement processus de la réalité psychique entre l'être et le devenir. Et donc l'existence d'entre deux de la conscience, hein, que Platon a bien vu par exemple dans Le Banquet, hein, c'est là où il parle de métaxie, d'entre deux, c'est que notre conscience, notre psyché, notre pensée est elle-même tiraillé entre l'éternel et le temporel, entre l'immortel et le mortel, entre le même et l'autre, parce que finalement, elle est elle-même une partie du cosmos qui est expérimentée sur cette base. Donc, je vais peut-être accélérer. Donc, le commencement, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, le commencement ne peut pas être trouvé sur le plan génétique des choses finies. Si vous voulez, le commencement ne peut pas être trouvé simplement en revenant de choses finies en choses finies. Il y a comme un saut, il y a un passage à l'infini, en fait. La cause du cosmos n'est pas une affaire de causalité parmi les choses du monde extérieur. Et c'est ça qui est très profond, je trouve, chez Platon, parce qu'il arrive à symboliser ce paradoxe de la réalité cosmique. Sa cause, en fait, la cause du monde, est plutôt dans l'ordre paradigmatique conçu par un démiurge divin, lorsque trouvé pas bon par lui de créer en vertu de son standard, de sa bonté sans envie. Il s'est appliqué à la formation d'un cosmos devenant. Donc par sa bonté même, finalement, il a créé le cosmos. Et donc le cosmos visible, ce qu'il faut comprendre, donc il y a le cosmos visible, toutes les choses qu'on voit, c'est l'icône, l'image du paradigme éternel, hein, l'image du paradigme éternel dont s'est servi le démiurge. Donc il y a, et c'est là que ça va encore plus complexifier la symbolisation de Platon, c'est que le cosmos lui-même le cosmos visible a un caractère d'éternité. L'image du paradigme éternel a un caractère d'éternité, puisque finalement il est l'image de cette éternité même. Et il y a quelque chose même de très poétique, hein, donc que le démiurge fabrique l'image, donc par la création des corps célestes qui sont ordonnés par des mouvements mathématiquement déterminés. Et là, beaucoup de mathématiciens trouvent chez Platon le début de la physique mathématique. Cette idée que finalement, l'ordre est d'abord un ordre mathématique du cosmos. Donc ce démiurge fabrique l'image comme l'image mobile de l'éternité. Donc le temps. Le temps, c'est l'image, l'icône de l'éternité. Et donc le temps a lui-même un caractère d'éternité. Il caractérise tout entier le devenir. Et vous voyez, on pourrait même penser à, je sais pas, à Bergson, mais il y a un caractère de... Ouais, c'est merveilleusement dit quand même. C'est une image donc qui change sans cesse, mais qui a un caractère d'éternité, voilà, parce que il n'y a pas de fin. En tout cas, Platon va faire l'hypothèse d'une dissolution du cosmos, hein, mais si cette hypothèse est écartée, on peut concevoir le cosmos comme ayant un certain caractère d'éternité, comme son paradigme qui est lui-même éternel. Donc, ce qui est paradoxal, encore un coup, c'est l'image de l'éternité devient elle-même une éternelle image. Il y a une sorte de renversement entre le modèle paradigmatique et le devenir. Et donc le devenir est lui-même de l'être, mais une forme dégradée de l'être qui est éternellement. Donc simplement, je vais essayer de terminer rapidement, pour essayer d'éclairer encore un coup cette équivocité de l'être et les symboles tensionnels que cherche à développer Platon pour décrire l'expérience du cosmos. C'est que vous voyez le paradigme, l'intellect, le paradigme intelligible est éternel, mais l'image visible, le cosmos, est lui-même éternel. Et l'éternité du paradigme, qui est elle-même éternelle, renvoie aussi au temps qui est lui-même éternel. Donc, finalement, Platon se sent toujours obligé d'ajouter des genres différents d'être, des genres dégradés de l'être, et que, par exemple, entre l'être et le devenir, il va rajouter rapidement la chora, c'est-à-dire l'espace, c'est-à-dire toutes les choses ont besoin d'espace pour exister, pour devenir, et que l'être, le devenir et l'espace, tous sont de l'être, avant même que le ciel ne soit devenu. Donc ça, c'est en 52D. Donc c'est, vous voyez, le langage est totalement paradoxal. Hein. En même temps, il y a l'être qui s'oppose au devenir, mais en même temps, comme le cosmos, c'est un mélange d'être et de devenir, le devenir est lui-même un mode de l'être. C'est lui-même quelque chose qui est en un sens. Donc, ce que dit Platon, par exemple, « Voilà donc au juste de mon suffrage ce qui se déduit et peut se résumer en ces termes. L'être, l'espace, enfin l'agora, le devenir, tous les trois sont de trois façons différentes, donc l'équivocité de l'être, dès avant que ciel fût né. Voilà. » Donc, ces symboles qu'utilise Platon, il ne les fait pas au hasard, mais ils émergent à chaque fois en groupe. C'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas hypostasier, par exemple, l'être, ou le devenir, mais toujours voir que l'être et le devenir se comprennent comme des tensions dans l'expérience de l'existence, dans même la structure du cosmos, et que finalement ces symboles qui émergent en groupe sont comme des indicateurs de mouvements analytiques dans la conscience existentielle, dans la conscience ancrée dans l'existence. Et tous ces symboles, hein, l'idée de taxis, de désordre, d'ataxia, d'ordonnancement, d'être, de devenir, de paradigme, d'image, d'éternité et de temps, tout ça sont des complexes tensionnels qui font que le sens va émerger. Et il ne faudrait pas voir dans cela des choses, des entités séparables, en fait. Comme je l'ai dit, si le cosmos consiste en un mélange entre l'être qui est toujours identique, qui est toujours le même, et le devenir, qui change sans cesse, le langage de l'être et du devenir est paradoxal. Par exemple, s'il n'y a pas de temps avant la génération du temps, pour Platon, comme chez Saint-Augustin finalement, le temps est une créature, une sorte de création, une image fabriquée de ce modèle intelligible. Donc, s'il n'y a pas de temps avant la génération du temps, lorsqu'on parle de l'éternité, on ne peut pas dire qu'elle était, qu'elle sera. Et souvent, on a un usage qui est très malheureux à propos de ces symboles. Et donc, même sur le devenir, on dit qu'une chose est devenant, qu'elle est en devenir. Et en fait, tout ça est ambigu et équivoque, mais Platon va pas chercher à dépasser cette ambiguïté, si vous voulez. Il révèle cette ambiguïté qui est peut-être au cœur même de la nature. Et je pense à Hegel qui lui va chercher à supprimer ces ambiguïtés. Par exemple, le commencement du logos, le verbe. Mais finalement, il n'y a pas de saut avec la venue à l'existence, à la réalité, par rapport à Schelling qui, lui, va penser justement le mystère du saut, finalement. Mais Platon, ici, c'est un peu pareil. Finalement, il garde cette ambiguïté et il cherche à penser, à la penser, à illuminer certains mystères comme le commencement. Mais illuminer, ça ne veut pas dire supprimer le mystère. Ça veut dire finalement le rendre conscient, le rendre conscient et peut-être ordonner la vie de l'homme qui remarque aussi que tout ne se réduit pas au visible, que tout ne se réduit pas au fini, si on employait un langage moins platonicien. Et juste pour terminer, Platon se demande, j'avais parlé de la pluralité d'univers. Ce qui est intéressant, c'est que chez Platon, il y a cette idée que l'univers est l'image du tout paradigmatique et que finalement, le cosmos est la réalité englobante, le périécon, c'est-à-dire ce qui comprend le tout de la réalité. Et c'est unique, si vous voulez. S'il y avait un second cosmos, un second devenir presque, comme un univers avant le Big Bang, en fait, ça supposerait qu'il y ait un paradigme qui comprendrait les deux univers. En fait, on revient à cette tension vers l'unité du cosmos. Donc, ce serait une fantaisie des mondes multiples qui serait incompatible avec l'expérience que que l'on fait finalement de cette tension avec la réalité. Donc l'unité, c'est pas l'unité du cosmos n'est pas à comprendre au sens numérique, comme dira Voegelin, mais comme une unité liée au processus tensionnel de réalité. C'est-à-dire, finalement, il y a une tension dans la réalité, et finalement, s'il y avait plusieurs, encore un coup, plusieurs sortes de mondes visibles, ça supposerait toujours un paradigme supérieur aux deux images qui les comprendraient. Et donc, ce qui est intéressant, dernièrement, c'est que Platon a beaucoup de mal à symboliser, et va devoir créer même des néologismes. Le cosmos, c'est le monogénèse. Donc, c'est pas une chose, hein, mais c'est ce que Dieu appelle le Dieu visible, ce que Platon appelle le Dieu visible, généré par l'image du Dieu intelligible. Et donc, le cosmos, c'est monogénèse, donc c'est l'image du paradigme. Le paradigme qui est lui-même le monosis, donc l'idée toujours d'unité. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que dans l'histoire de la philosophie, l'idée de monosis, donc de paradigme 1, a été abandonnée, mais la monogénèse survit, philosophie, il faut même étendre, puisque si le cosmos est la monogénèse du paradigme, donc c'est-à-dire le mystère finalement de la création du monde, c'est ça que Platon cherche à illuminer, à éclairer, c'est ce mystère de la création du monde, mais cette monogénèse, hein, donc qui n'est pas première, le cosmos n'est pas premier, mais d'abord il y a ce paradigme, cet ensemble de formes et cet acte de création du démiurge. Cette monogénèse sera employée dans l'évangile de Saint Jean pour parler du Fils de Dieu, qu'on traduit par l'unique engendré. Et on passe d'un Dieu créateur de l'ordre du cosmos, hein, finalement c'est le mystère aussi de l'ordre, de l'intelligence qui est une dans tout le cosmos. On passe de ce Dieu créateur de l'ordre du cosmos à, dans l'évangile selon Saint Jean, du Dieu sauveur du monde du désordre, finalement, qui est engendré. Et on parle aussi de l'image, hein, le Fils est l'image de Dieu, l'image visible de Dieu. Un peu comme le cosmos est pour Platon l'image visible du paradigme. Donc, pour conclure, mais désolé, j'ai été très obscur et long. Les symboles pouvant illuminer la structure mystérieuse de la réalité existentielle, donc, cherchent à décrire un mystère, le mystère de l'au-delà des choses, finalement, on y revient, mais qui informe les choses, qui n'est pas totalement en dehors des choses, puisque le cosmos est un mélange, hein, encore un coup, de l'être et du devenir. Et donc, ces symboles, sont liés aux expériences de la présence formative du divin, mais le mystère n'en reste pas moins mystérieux, et le cosmos est à la fois une des choses, hein, qui n'est pas objet dans l'espace, et à la fois une non-chose, hein, finalement, il est à travers le monosis de son paradigme, l'unité intelligible de son paradigme. Donc, attends, je sais pas si je cite sa dernière phrase. Disons pas dit ça. Mais... Oui, c'est pour conclure peut-être même par Platon que finalement le divin n'est pas discerné de manière isolée, mais c'est par l'exploration des choses dans lesquelles il est discerné comme formativement présent, comme présent de manière créatrice, formatrice, et que finalement on peut parler d'une foi dans le cosmos, hein. Yvan, tu parlais d'une piété cosmique, il y a chez Platon une foi dans le cosmos, une foi aussi dans l'ordre, hein, dans l'ordre qui est dans le monde, c'est cette foi qui lui permet de comprendre, hein, je crois pour que je puisse comprendre, Je comprends pour que je puisse croire. Chez Platon, là, on le voit, et le discours symbolique, le discours mythologique, est une manière finalement de rejoindre les deux et d'atteindre peut-être une réalité par le moyen du symbole. Et voilà. Merci beaucoup. Désolé du temps employé.
Très bien, très bien. Merci Gabriel.
À savoir que tout ça a été fait très tardivement dans la
Moi, je crois que c'était
mis 50 minutes
de résumer le tibé. Alors.
Oui, si, moi j'ai trouvé. Je vois que tu t'envoies trop de flèches là.
Ah, oui. Moi,
c'était très bien. Le moment là de la définition, quand c'est arrivé sur l'éternité du temps, la fin de la citation, elle est arrivée parfaitement, j'ai trouvé.
Ouais, c'est très bien. C'est gentil.
Ouais, tu travailles le texte, c'est impressionnant. Je ne sais pas si j'arriverai à m'amuser à ça un jour, enfin, m'amuser. Accepter de me plonger avec la rigueur dans un texte difficile, hein. Bravo.
Et il est très dur.
Oh là, oui.
Mais j'espère au moins que ça y est.
Là, tu me donnes. Tu me permets de comprendre quand même. C'est bien.
Et tu...
Moi j'ai une question.
Ah, vas-y, vas-y.
Alors, peut-être un peu tendu ma question. Mais... non, c'est pour comparer en fait avec d'Aristote, si tu veux, et la critique qu'Aristote fait dans son De Cello. Si, d'une certaine façon, l'univers est éternel, d'une certaine façon, pourquoi concevoir l'ordre comme quelque chose d'engendré, en fait, et plutôt que de voir l'ordre, qu'est le cosmos, comme lui-même éternel, en fait. C'est-à-dire, d'une certaine façon, chez Aristote, c'est très clair, l'univers est éternel, mais l'ordre est lui-même aussi éternel. Et ce qu'il critique chez Platon, c'est justement cette fiction, il appelle ça comme une fiction, un faiseur de fiction, c'est-à-dire d'essayer de comprendre l'ordre, de rencontrer l'ordre à partir du désordre. Cette idée d'avoir un univers qui, quelque part, est éternel, mais en même temps, l'ordre lui-même, en fait, il est quand même vu comme étant engendré. Et là, il y a quelque chose d'un peu étrange.
Mais en même temps, le cosmos lui-même est engendré. En un sens que le cosmos est dès le début aussi la mise en ordre de matériaux. C'est vrai, une sorte d'état primordial. Platon parle d'un état primordial que l'on pense comme en rêve. Quelque chose qu'on ne peut pas voir, qui est une sorte de... Je sais pas, de matière première, enfin d'état originel premier, mais en tout cas l'ordre et le cosmos a été conçu comme nous, psyché et soma. Donc il y a l'ordre en fait en son sein, mais qui est une imitation donc de l'ordre intelligible éternel, et donc qui est peut-être moins forcément moins permanent, moins stable, moins parfait, moins éternel que l'éternité elle-même ou que le modèle intelligible qui n'est pas engendré. Je ne sais pas si je réponds ou si j'ai bien compris ta question, mais parce que je ne connais pas non plus la critique d'Aristote.
Si tu veux, c'est à la limite, on peut comprendre que si d'un côté tu as le monde éternel des idées, et puis tu as ce monde qui est un mixte des idées, mais aussi de la matière, et que peut-être ce qui différencie les deux mondes, c'est que justement ce mixte, en tant qu'imitation, eh bien, son ordre n'est pas... n'est pas du même ordre, puisque forcément il est associé à quelque chose qui s'oppose à l'ordre. Mais si tu veux, c'est ce que je trouve assez troublant chez Platon. Je sais pas, pour dire plus simplement, on a l'impression que chez Aristote, le fait que l'univers soit éternel et que tout soit tel qu'il est d'une façon éternelle, ça paraît beaucoup plus rationnel que d'imaginer un univers qui est d'une façon éternelle, mais qui est, comme tu dis, moins éternel que son paradigme, que son... Voilà. Avec ce démiurge, on ne sait pas trop ce qui lui arrive. Pourquoi il essaye de vouloir imiter un ordre intelligible dans quelque chose qui ne l'est pas, en fait? Qu'est-ce qui lui arrive?
Alors, ouais, c'est par rapport à sa nature bonne, en fait. C'est par rapport à sa nature bonne. Et je pense que, enfin, chez Platon, il y a vraiment cette idée d'un acte généreux. Il parle vraiment sans envie. L'idée qu'il n'y a pas le fait qu'il n'a aucun frein pour rendre quelque chose aussi semblable à lui, aussi parfait que lui-même, il ne va pas envier cette chose parce qu'elle lui ressemble beaucoup. Et donc il y a un acte généreux lié à sa nature. Et en même temps, ouais, il y a toujours un ordonnancement du monde. Il y a toujours. Et en même temps, t'as parlé de monde pour parler de l'intelligible. Monde, je pense que là, pour le coup, je pense qu'encore un coup, l'intelligible doit être pensé par rapport à l'image, et que c'est pas forcément deux mondes, mais que c'est plutôt une tension entre même le transcendant et l'immanent, entre.
Peut-être parler de séparation.
Mmh. Oui,
il y a quand même l'idée qui est gardée, je pense, en tout cas que j'avais compris, que j'avais lu dans des commentaires aussi, et garder quand même la clause première de la mythologie grecque, ou des Iodes aussi, qui a une forme quand même de séparation,
ouais.
Qui a quelque chose de notre existence qui est séparé. Du principe.
Le même et l'autre. Ouais,
voilà, et que cette chose-là suppose quand même une forme de tragique.
Mmh.
D'ailleurs, moi, c'est un peu. J'ai aimé le début quand tu dis ça vient un jour après la République.
Mmh.
C'est peut-être ouais. Commencé comme ça. Et c'est vrai que j'avais cette image de la République, ou quand même de l'idée de cette espèce d'organisme atroce que peut être. Que peut être la cité, qui va détruire le sage, qui va le dévorer, quoi, le gros animal, je crois qu'il l'appelle. Hein. Ce gros animal qui va prendre ce qu'il y a de meilleur, de ce qui nous élève vers le transcendant, qui devrait réguler la cité, mais qui en fait va le dévorer organiquement, un organisme qui dévore. Et effectivement, en opposition, cette image-là d'un cosmos, en même temps, nous sommes séparés. Par la cité terrestre et qui nous appelle quand même à la compréhension d'un ordre supérieur. Il me semble qu'il y a une angoisse dont avait parlé d'ailleurs Mélanie Klein quand elle fait la lecture d'Empédocle, d'Hésiode, d'Héraclite, de Parménide, en disant il y a une angoisse de la séparation qu'on pourrait presque prendre. De manière psychanalytique, enfin elle le fait comme ça. Au fond, ça parle pas du cosmos, elle dit, je suis pas d'accord, mais c'est intéressant, même ça parle pas du cosmos, ça parle de la psyché, de la constitution de la psyché, en tant qu'elle se sent séparée de son origine.
Il y a ça aussi, finalement, parce que la conscience est elle-même, en tout cas la pensée, est elle-même une partie de ce cosmos qui est lui-même, en fait. Dans un entre-deux, en fait. Et cet entre-deux, c'est sûr, c'est toujours une quête, c'est toujours, on pourrait dire, une insatisfaction, mais en même temps, ce qui est saisissant, c'est quand même que Platon parle à chaque fois de la bonté.
Ça, j'ai commencé aussi par la gnose, on est sur cette ligne-là de lecture, c'est-à-dire le bon et le mauvais démurgent, et c'est-à-dire, à partir de ce moment-là, il peut y avoir une autre interprétation en disant. Il y a un bon démiurge et il y a un mauvais démiurge, par lequel est entrée la séparation du monde.
Ouais.
Et là, c'est une lecture gnostique qui devient une lecture de la gnose platonicienne.
Alors que là, il y a vraiment une admiration, enfin un ébranlement face.
Oui, mais la question quand même d'Éric est essentielle, parce qu'il y a bien une séparation.
Oui, oui.
Il y a une séparation d'une origine. On garde quand même l'idée, à un moment donné, le temps a été ce qui a séparé. Chronos a castré. Il a castré le ciel, quoi.
Oui, c'est
ça, en fait. Chronos a castré le ciel. Il a séparé la terre et le ciel. Il a enfanté tous les monstres, en fait. Et ce monstre-là, je pense, symboliquement, c'est le gros animal organique de la cité humaine, qui dévore ceux qui nous élèvent.
Et en même temps, il dévore pas seulement, parce que le temps, c'est une image. Donc on parlait que des signes vers autre chose. Mmh. Et la nature même du temps, on y voit une forme d'éternité, mais qui est une éternité, une succession de choses finies. En fait, c'est une fausse éternité, le faux infini, en fait.
Mmh.
Et qui nous renvoie... peut-être à son modèle qui est la pré-éternité.
Cette dualité de Chronos, tu la trouves dans la mythologie, puisque Chronos est en même temps le maître de l'âge d'or du temps, en même temps celui qui sépare l'homme de cet âge d'or, et en même temps celui qui reviendra à un moment rapporter l'âge d'or. Tu vois ce que je veux dire? En fait, cette dualité-là est dans le dieu du temps lui-même.
Est-ce que la séparation entre le tohu-bohu et le demiurge bon et qui organise tout ça, c'est pas finalement temps, matière, mais le problème du rapport entre l'esprit et la matière, et que la matière est nécessairement autre que l'esprit, mais d'une dignité ontologique nécessairement inférieure, donc tragique, et donc toute cette équivocité.
C'est vrai que ce qu'il dit, c'est qu'il est plus beau pour un être d'être intelligent, et que le cosmos, comme c'est la plus belle des œuvres, est doué d'intelligence et de raison, et que mais en même temps, le corps du cosmos est investi de l'intelligence, et donc je pense pas comme les gnostiques qui n'ont plus un rejet total de la matière. Parce que finalement, cette matière est investie de cette intelligence qui est à la fois dans le tout, mais dans toutes les parties. Mais c'est sûr que la matière est peut-être a une vocation de désorganisation. C'est peut-être l'entropie. Par rapport à la négentropie, d'ailleurs, il parle d'un être vivant qui est le cosmos. Donc, il y aurait l'idée presque d'un ordonnancement toujours, d'un principe.
Que la matière en tant que telle ne peut pas obéir parfaitement à l'esprit. Sans parler même de l'entropie. Quoi. C'est...
Oui, mais à un moment, il me semble que tu as dit, il pose l'hypothèse d'une dissolution, mais il la récuse. Donc il dit que l'âme du monde est éternelle. Enfin, que le cosmos lui-même est éternel.
Alors c'est toujours un discours vraisemblable. Mais il dit, le temps donc est né avec le ciel, afin que, engendrés ensemble aussi, ils soient dissous, si jamais dissolution leur doit advenir. Et il a été fait sur un modèle de la nature éternelle, afin d'y être au plus haut point ressemblant, dans la mesure du possible. Mais voilà, il y a l'hypothèse de, si jamais dissolution doit advenir. Mais il y a le commencement du temps. Et donc, il y a une tension aussi vers un achèvement possible. C'est même pas qu'il la récuse, finalement. C'est qu'il laisse l'hypothèse. Finalement, c'est quelque chose qu'on peut pas trancher. Comme ça, je pense.
Et c'est là qu'il y a le retour du même des cycles de 1000 ans, tout ça Donc il y a des sortes de retours.
Mais oui, c'est clair.
L'imitation, elle est cyclique.
C'est le même et l'autre, forcément, il y a des... il y a des cycles, des révolutions. Oui, c'est sûr, c'est cyclique. Et en même temps...
Ouais. Avant la percée théologique du Dieu qui fait alliance avec l'humanité, la notion d'un temps linéaire n'existe pas. Donc on est calqué sur une idée de cycle astronomique.
Oui, sur les corps célestes.
Et parce que c'est parfait, en fait. Il y a une image de la perfection. Qu'on trouve dans le paradigme.
Une image de la perfection par rapport à, au mouvement de lui-même et de l'autre, tu veux
dire? Le cycle du cosmos lui-même. Il me semble que justement, c'est parce qu'en plus, il prend les astres pour donner cette mesure.
Oui, c'est ça. C'est l'ordonnancement des astres, des mouvements des astres qui sont mathématiquement déterminés et qui ordonnent. Oui, c'est sûr. Il y a un mouvement cyclique. Ouais. Et qui peut être vu aussi comme... c'est vrai que j'ai dit un peu le contraire tout à l'heure sur le fait que chaque moment n'est plus... Mais en même temps, c'est le devenir. Et le devenir, c'est ce qui vient et s'en vient. C'est ce qui arrive, mais n'est plus et ne sera plus. Et je pense qu'il n'y a pas que du même. Donc, vu que c'est du même et de l'autre, c'est pas forcément purement circulaire au sens où ben, y a toujours l'autre qui joue quand même. Et que même s'il y a le même, ça va ressembler peut-être.
Hélicoïdal.
Ouais, peut-être. Ou comme, je sais pas, le développement des cités.
C'est le nombre d'or, en fait. C'est la suite de vie. Enfin, je veux dire, à chaque fois que derrière les textes de Platon, t'as toujours une théorie du nombre. Hein, c'est-à-dire, c'est le nombre d'or, en fait. C'est une spirale. C'est une spirale infinie qui est à un point par lequel elle tourne sur elle-même.
Je suis pas sûr de comprendre tout à fait le statut du démiurge, mais c'est pas le principe, puisque non. Le démiurge ordonne, mais il n'est pas créateur, c'est clair. Ouais. Enfin bref. Et donc, je sais pas si tu connais le traité de l'éternité de Plotin. Là, c'est assez merveilleux comme complément, je pense. Enfin, voilà. Et alors, je serais intéressé de savoir si tu es d'accord. Pour représenter, disons, le rapport entre le temps et l'éternité de la façon suivante, enfin, je vais le dessiner comme ça, mais on aurait donc le principe, l'éternité, l'un, éternel, duquel procède, comme une chute, la temporalisation, et plus on descend dans le chaos, et plus effectivement, on, disons-le, en quelque sorte, l'éternité se temporalise, tombe dans la succession. Et il y a néanmoins une volonté de retour, hein, de conversion du coup. Sauf que ce retour, il n'est pas direct, il est hélicoïdal. C'est-à-dire, c'est par les cycles que le temps va imiter. C'est par la répétition. Parce que dans la répétition, c'est en quelque sorte l'autre qui imite le même.
C'est le retour du même.
J'essaie de... Oui. De tenir
ou la prédominance du même. C'est sûr, finalement. Mais en même temps, quand on expérimente, je sais pas, j'ai pensé aussi à l'élan vital. Enfin, quand on fait l'expérience intime du temps, il y a une forme. On sent ce qui veut dire aussi par l'image d'éternité. Enfin, c'est un pur maintenant. Et en même temps, c'est le devenir. Et je sais pas si on pourrait l'approcher comme ça, mais c'est sûr qu'en tout cas le temps, la succession infinie fait que justement, on peut revenir à cette question.
Et par ailleurs,
oui, presque comme un schéma qui est tellement
un thème en musique. Qui revient à la fois sans cesse différent, sans cesse le même.
Et qui revient vers la forme du point, presque. Sens où l'éternité est le point, et à force de tracer, on voit que.
Oui, il tend vers l'unité sans la fin.
Voilà, il tend vers. C'est ça, la tension vers l'unité, je pense. Qui est...
C'est une vision linéaire, en fait.
Et Bergson semble s'être inspiré là, parce que tu parles de temps tensionnel. Et alors, Bergson parle de tension de durée, et tout au bout, au degré maximal De tension, il y a quoi? Il y a l'éternité. L'éternité de vie, quand même. Et tout en bas, il y a la matière inerte. La distension totale.
La foi dans le cosmos, c'est quand même l'idée que tout ça est sauvé, puisque le début, ce que nous a, tout est dans le commencement, en fait. C'est au sens de, du coup de Schelling. Tout est dans le commencement, tout est déjà sauvé, et tout ce qui sera n'est que finalement le chemin vers le retour
du... Oui, il y a une forme d'espérance aussi, c'est sûr.
Et qui est très angoissante, par contre.
Oui, c'est une forme d'espérance.
Oui, c'est assez angoissant, je suis d'accord. C'est assez angoissant.
Bah, c'est d'ailleurs quand même... Bon, on voit le cosmos, il est compris parce qu'il doit limiter dans son imperfection la perfection, mais il ne peut que limiter, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais l'atteindre. Je ne vois pas en quoi c'est une espérance.
Si, il y a la vie, apparemment.
Ah bah oui, mais là, tu l'espères. Oui, mais tu refuses.
Je veux dire, une espérance parce qu'on part
dedans.
Ah oui,
on part. Une possibilité pour l'âme de s'élever d'un coup.
C'est ça, c'est qu'en fait, on participe de. On participe aussi d'une forme de dégradée d'éternité, etc. On est toujours en tension entre, comme je dis, le temps et l'éternité, mais du coup, on est. Comme le philosophe qui est en tension entre l'ignorance et la sagesse, mais la sagesse, finalement,
elle est inaccessible.
Ben non, parce que quand on voit dans les autres mythes, il y a quand même les mythes du jugement, du jugement des morts, il y a quand même... Et dans le Phédon, voilà, tu parles du Phédon, mais Socrate, il va chercher à construire encore un coup un récit vraisemblable, mais il dit que c'est une matière pour espérer. C'est une matière à espérer, parce qu'il n'y a pas la révélation, mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a le mouvement pneumatique qui est révélateur, qui vient à nous, qui, voilà, dans la Bible, à chaque fois on voit finalement ces hommes qui écrivent, par exemple, la Genèse. Mais la conscience est absolument le sujet qui écrit est totalement en dehors, c'est totalement pneumatique comme mouvement qui presque descend entièrement comme si l'homme était là au commencement. Et en même temps, là, Platon, c'est le mouvement qui est noétique, d'ascension, et en même temps, il en vient lui-même par d'autres moyens à toutes ces questions, au mystère en fait de la structure de la réalité, de son commencement, de l'intelligence divine.
Derrière la structure, il y a l'unité. La compréhension de la structure de l'invisible ne nous amène que vers le point crucial de la spirale, c'est-à-dire l'unité. Et puis la structure, finalement, n'est encore qu'un pas vers. La dernière, peut-être, des illusions, l'illusion la plus vraisemblable vers l'unité. Vers le
moment de. Je ne suis pas sûr qu'on puisse enlever cette dimension tragique, et en partie gnostique, mais on n'est pas obligé de prendre gnostique dans un sens très.
C'est très vaste, de toute façon. C'est quand même un mouvement actuellement très vaste, très contradictoire. C'est difficile
il ne cherche pas à tout systématiser, mais plutôt à illuminer des structures, et du coup, il n'est peut-être pas dans le mouvement gnostique qui cherche à absolument parvenir à surmonter, par exemple, comme Plotin, qui cherche à dépasser la tension transcendance-immanence, qui cherche à dépasser tout ça. Et là, je pense, la fausse gnose, comme disait Irénée, c'est plutôt ça, l'idée, finalement, d'un dépassement de toutes les tensions, d'un achèvement de toutes les ambiguïtés, de toutes les tensions.
Alors on pourrait dire que d'un côté, ça respecterait la discipline et la prudence dans l'existence concrète, mais ça n'empêche que d'un autre côté, du point de vue du cœur profond, on aspire à cette union mystique avec le bien parfait, si on veut, le demi-ange. On peut tenir les deux en étant dans une approche gnostique sans être négatif.
Oui.
Parce qu'il y a attraction.
Il y avait une bonne gnose.
C'est pas parce qu'il y a attraction qu'il y a tendance à...
À vouloir s'arracher, parce qu'il y a quand même cette tendance aussi.
De la même façon que dans la doctrine chrétienne, la béatitude n'est pas devenir Dieu, n'est pas fusionner, en quelque sorte. De la même façon, c'est pas parce qu'il y a attraction qu'il y a tension vers une fusion.
Oui.
Alors, la dernière question.
Le Vimurge et ce qui joue le rôle du principe anhypothétique, c'est pas la même chose. Donc, au fond, ce n'est pas le Vimurge que l'on doit imiter. Puisque finalement, c'est toujours pas, c'est quoi ce Vimurge si ce n'est pas le principe anhypothétique?
C'est là que commence toute la question de la gnose, d'ailleurs. La question que tu poses, c'est là que commence la gnose. Hein.
Parce que c'est
cette question-là qui conduit vers l'idée de la division du Vimurge, etc. Mm. C'est ça. Et là, c'est la fonction tragique, l'idée d'une tragédie.
Et il me semble que le Vimurge, c'est... Si on n'a pas cette idée de démiurge, d'acte créateur, on tombe chez Hegel au verbe qui s'auto-engendre et qui finalement n'a pas de... où il n'y a plus de transcendance en fait, et tout est immanent. Il me semble que cet artisan qui est là, à mon sens, pour garder cette présence... transcendante de l'intelligence qui ne s'incarne pas en un monde mais qui va être plutôt imité par un, moi je le vois plutôt comme ça, parce qu'après c'est quand même un mythe, et le Vimurge je pense pas qu'il faille le voir forcément comme une entité réelle, un objet mais plutôt dans sa tension, dans la tension quand même entre le monde et le paradigme. Oui, c'est un être qui, en tout cas, qui a un modèle qui lui est supérieur, et comme tu dis, c'est pas lui le principe ultime de la réalité.
Parce que tu vois, par exemple, dans certains textes chrétien, un peu aussi, c'est très lié aussi aux Arabes. Quand on parle de retour, il y a une ambiguïté. Est-ce que c'est un retour vers, on pourrait dire, un mode angélique? Donc, autrement dit, c'est l'ange ou c'est Dieu? C'est pas forcément la même chose. Ça change beaucoup, en fait. À Béroès ou autre. Alors, même si chez Béroès, mais on voit bien qu'il y a. C'est pour ça que je trouve que c'est pas forcément complètement, j'allais dire. Fait d'espérance, parce que il y a cette ambiguïté. Que cette ambiguïté là, à mon avis, est une ombre à une espérance totale, à mon avis.
Mais en même temps, je pense que si on se place dans le contexte grec, l'idée d'une espérance totale pour être fondée, je pense que l'espérance, déjà, elle peut naître parce qu'il y a de l'ambiguïté, sinon il n'y aurait pas d'espérance, il y aurait une sorte de certitude absolue. Enfin, je ne sais pas si tu vois, en tout cas, l'espérance, ça laisse toujours une sorte de structure de...
Alors, c'est naturel peut-être.
Non.
Eschatologique.
Oui, il y a une eschatologie, c'est sûr.